Vous allez voir que dans tous les, dans chaque plan dans vos livrets, il y a des lignes qui résument un peu l'idée centrale de chaque exposé biblique. L'idée centrale de Daniel, c'est malgré les apparences, Dieu a le contrôle. Mais hier, l'idée centrale était malgré la pression du monde, Dieu permet son peuple de résister, apprendre et servir. Aujourd'hui, enfin non, on a vu hier, on a vu hier que Jésus nous a envoyé d'être dans ce monde, mais pas du monde. OK? Juste pour un petit rappel hier. Et Jésus est notre exemple, mais il est plus qu'un exemple, parce qu'en fait, ça c'est le cœur de la bonne nouvelle. Si Jésus a resté, si il est resté loin de nous, ça va? Qu'est-ce que tu fais? Ça va? Il faut mettre ça là. Ça va? Ça va? Ok. Si Jésus est resté loin de nous, s'il s'isolait, il ne pouvait pas nous sauver. C'est ça? Et donc, il fallait qu'il allait à fond. Mais s'il n'a pas été différent, s'il n'a pas été saint, pur, sans péché, il ne pouvait pas nous sauver. Et donc, il est allé à fond avec nous, avec les pêcheurs, avec les collecteurs d'impôts, avec les prostituées, avec les pêcheurs, en même temps en restant très différent. Tu vois, ça c'est la bonne nouvelle. Et il nous a sauvés, tout ce qu'il a fait. Mais aujourd'hui, on va voir que malgré la persécution, Dieu sauve son peuple fidèle. Et ça, c'est l'idée centrale. Malgré la persécution, Dieu sauve son peuple fidèle. On passe par chapitre, on passe le chapitre 2, mais on y reviendra au quatrième exposé. Tu marches? Oui, tu marches. Donc, on va sauter chapitre 2. Pourquoi est-ce qu'on sort du chapitre 2? Bah, on doit parler de la structure de Daniel maintenant, juste pour voir. Chapitre 1, c'était une introduction. Les chapitres 2 à 7 ont une structure en sandwich. Sandwich. Ou concentrique. Ou, le mot technique, chiasme. Mais c'est mieux sandwich. OK? Je préfère sandwich. C'est juste moi. OK. Chapitre 2 et 7 sont similaires avec des rêves des quatre royaumes et le royaume de Dieu. Chapitre 3 et 6 concernent le Dieu qui sauve son peuple de la persécution. Et les chapitres 4 et 5 décrivent un Dieu qui humilie les dirigeants trop arrogants. Donc on fera ensemble 6 études. Et on restera aujourd'hui sur chapitre 6, 3 et 6. Et on traitera 4 et 5 demain. Et donc, on va faire 3 et 6. Aïe, 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 j'ai fait ça très compliqué. Ça va être le troisième. Et le quatrième va être comme ça. Tout le monde comprend?
Oui.
C'est par okay? Couleur.
Par couleur. Il y a la couleur. Mais ça va. OK. Et juste une petite parenthèse, un autre. On peut noter que le livre de Daniel est le seul, presque le seul, de la Bible écrit en deux langues. Les chapitres 1 et 8, 12 sont en hébreu et les chapitres 2 à 7 sont en araméen. Suggérons que ces chapitres s'adressent davantage au peuple d'Israël, non, le peuple d'Israël dans sa langue. Non, pardon. Aïe, aïe, aïe. Ce chapitre adresse en particulier les peuples d'Israël, mais ce chapitre aussi. Et c'est juste que chapitre 2 et 7 s'adressent à un public plus large. Et ils utilisent la langue bien répandue arméenne à l'époque. Ok, toutes les complexités sont finies maintenant. Maintenant, on peut lire la parole de Dieu ensemble. Ok. Chapitre 3. Chapitre 3, verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il la dressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit rassembler les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultants, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendent à la dédicace de la statue qu'il avait dressée. Alors, les administrateurs, les intendants, les gouverneurs, les conseillers, les trésoriers, les jurisconsultants, les juges et tous les magistrats des provinces se rassemblèrent pour la dédicace de la statue que le roi Nebuchadnezzar avait dressée. Ils se tinrent debout devant la statue que Nebuchadnezzar avait dressée. Un écho crie à plein voix, « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, homme de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe et des instruments de musique de tout sort, tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue se prosternèrent et adorèrent le statue en or que le roi Nebuchadnezzar avait dressé. On ne sait pas pourquoi Nebu, c'est Nebuchadnezzar. Nebu a eu cette idée brillante. Parfois, dans un empire comme le sien, avec beaucoup de peuples, avec beaucoup de langues, il faut garder l'unité. Dans l'empire romain, il devait périodiquement demander à tout l'empire de se rendre dans un temple, de brûler un peu de l'encens et de dire César, César est le Seigneur. Pour garder l'unité. Et Nebu fait la même chose ici, mais c'est 6 siècles avant. Pourquoi le verset 2 souligne-t-il toutes les positions du gouvernement? Et pourquoi le verset 5 mentionne-t-il chaque instrument joué? Et verset 7, et verset 10, et verset 15, 3 fois tous les instruments et toutes les positions. Peut-être c'était pour souligner l'étendue de la commande, qu'elle s'appliquait à tout le monde et pour souligner l'immense bruit qui accompagne l'appel au culte. Cela a été un rassemblement impressionnant. Vous auriez pu voir la statue de loin dans la plaine. Tous les fonctionnaires de l'Empire étaient là. Peut-être, tu étais fier d'être là. Je suis parmi les autres. Oui, c'est ça. Mais la pression pour se conformer et être comme tout le monde aurait été énorme. Le peuple de Dieu fait face à des menaces. Pour leur foi. Le peuple de Dieu fait face à des menaces pour leur foi. Les menaces explicites comme ici ou les menaces implicites comme hier. Chapitre 1. Comme maintenant au Moyen-Orient, la population de chrétiens là-bas a diminué au cours des 10 dernières années. Les chrétiens sont le groupe le plus persécuté au monde. Et on ne peut pas oublier des millions de nos frères et sœurs dans l'Église persécutée. Il faut prier pour eux. Il faut les soutenir. La pression et la persécution vont venir. Pas toujours. Par exemple, Daniel et ses amis, ils ont vécu de nombreuses années à Babylone et n'ont pas été menacés ou persécutés tout le temps. Je suppose que ces situations, chapitre 3, chapitre 6, sont mentionnées parce qu'elles étaient inhabituelles. Mais la persécution viendra aux chrétiens. Par exemple, 2 Timothée 3, verset 12. Du reste, tous ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Cela ne veut pas dire tout le temps. Et cela ne ressemble pas toujours à une persécution physique. Quand je parle de la persécution, d'un côté, on ne peut pas comparer notre situation à celle de l'Église persécutée. Ça, c'est une persécution explicite, par motel, marteau, étau. Ils sont interdits de se réunir de temps en temps, de construire des églises. Il y a la discrimination, pas d'accès à l'eau, aide, pas d'accès à l'éducation, au travail, à la santé. Notre situation n'est pas celle-là. Et donc, c'est ridicule de les comparer. On est persécutés en France. Oh, je crois, honnêtement, qu'on déshonore leur lutte quand on dit ça. Il ne faut pas être dramatique comme ça. Et pourtant, d'un autre côté, on ne peut pas être naïf et ignorer qu'il y a une pression implicite de bas niveau et même une petite persécution ici en France. Qu'il y a une pression pour être juste infidèle ou silencieux. C'est pas facile d'être chrétien à l'université ici en France. Et pour moi, c'est une question valable de demander. Si on ne ressent jamais la pression de la menace qui pèse sur notre foi, sommes-nous fidèles? Je ne veux pas nous culpabiliser, mais ça peut être une bonne question, un peu diagnostique. Sommes-nous si silencieux au sujet de notre foi que personne ne nous trouble? Le peuple de Dieu fait face à des menaces pour la foi. Sont-ils prêts? Verset 8. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Quoi? Puisses-tu vivre toujours? » D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs qui a confié à l'administration de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, 16 hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre. Roi, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Verset 8 nous parle des accusations malveillantes de certains Babyloniens. On ne connaît pas leur motivation. Sont-ils racistes? Voient-ils une opportunité de progresser dans leur carrière? Ou s'agit-il d'une réaction humaine, pécheresse, de la part de ceux qui sont dans le noir contre ceux qui sont dans la lumière? Écoutez leur parole dans verset 12. « Saison ne tient aucun compte de ton autre roi. Ils ne servent pas tes dieux et ne donnent pas la statue en or que tu as tressée. » Certaines persécutions peuvent être le résultat de ceux qui voient que les chrétiens sont différents et réagissent de cette manière. 1 Pierre 4 nous dit qu'il y a des gens dans notre monde qui marchaient dans les désordres, les convoitises, l'ivrognerie, les orgies et autres beuveries, ainsi que dans les idolâtries criminelles. Aussi, trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient? Est-ce que quelqu'un a expérimenté ça? Un peu? Tu déclines à faire ce que tout le monde fait et ils se moquent de toi. J'espère qu'il n'y avait pas une fournaise ardente dans le trou. Mais ils se moquent de toi. C'est pas facile. C'est pas la persécution mortelle, mais c'était une petite persécution. Et c'est pas facile. C'est aussi le fait que les humains sont des adorateurs qui les poussent à faire ça. Calvin a dit que le cœur humain est une usine perpétuelle d'idoles. En fait, Romains 1, 22 nous dit qu'ils ont remplacé la gloire de Dieu incorruptible par des images, des statues, les idoles. Lorsqu'on cesse d'adorer le vrai Dieu, ce n'est pas qu'on adore rien, mais qu'on adore n'importe quoi. C'est vrai dans notre monde? Lorsqu'on cesse d'adorer le vrai Dieu, ce n'est pas qu'on adore rien, mais qu'on adore n'importe quoi. Un statue en or, 30 mètres, et tout le monde est là. Il vient de créer le statue. Et maintenant, tout le monde fait qu'on se prosterne devant ça. Si vous vous promenez en Inde, vous verrez des idoles partout. Au coin des rues, sur les tableaux de bord des taxis, partout en Inde. Et j'ai fait une remarque de ça à une sœur indienne. Et elle m'a dit, oh, c'est la même chose en Australie. Je dis, oh, vraiment? Elle a dit, il y a l'appel au culte partout en Australie. Les omniprésents, dans les bus, dans les immeubles, dans nos poches, partout les publicités. Où les publicités sont, ça c'est un appel au culte. Ils vendent un récit que si vous achèterez cela, ça va remplir le vide. Ça va vous protéger, ça va vous combler, ça va vous satisfaire, ça va vous apporter le succès. Et je dis, OK. Mais les idoles sont comme ça. Les idoles sont rarement mauvaises en eux-mêmes, mais c'est ce qu'on recherche plus que Dieu. Ce qui ordonne notre comportement, ce qui dirige nos émotions, ce qui déplace Dieu comme notre maître. Ou c'est simplement ce qui nous donne la distraction dans nos vies. Les séries, les jeux vidéo, les réseaux sociaux, Ça peut être juste la distraction. Ça prend notre temps. Et ça peut... Ça nous donne le repos. C'est ça qu'on recherche. Qu'on est fatigué, qu'on est là. C'est juste que quand on est peut-être dans le désespoir, on cherche une série pour nous relâcher. Et c'est ce qu'il nous donne. Mais ça, ils sont les idoles personnelles qu'on choisit. Ici, dans la situation en Babylone, c'était, on voit une idole de leur société et la pression de les rejoindre dans le culte de cette idole. Et donc, c'était pas facile pour eux. Peut-être les Babyloniens ont dit aux trois jeunes hommes, Shadrach, Meshach, Abednego, peut-être ils ont dit, ne soyez pas des extrémistes. Nous ne disons pas qu'il faut oublier votre Dieu. Simplement, pliez-vous devant cette image. C'est pas si... Ne soyez pas les extrémistes. Juste fais ça avec nous. Ce n'est pas si grave. Et les gens nous diront, ne soyez pas si différents. Venez nous rejoindre dans ces petites choses. Dans leur vision de la sexualité. Où il n'y a pas de mal, sauf les abus. Ou dans leur vision de la religion. Où toutes les religions se valent. Ça va être difficile. Ça va être un défi pour nous. Est-ce qu'on va les rejoindre dans leur vision du monde, dans leur vision d'un sujet comme ça? Le roi était furieux contre eux et les menaces de la fournaise ardente. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit verset... Bon, je peux résumer. Pliez ou je te fais crier. Pliez. Et la question. La question verset 15. Oh, yeah, c'est ça. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Ah, il est là. OK. OK. Et verset 16 à 18. C'est incroyable leur réponse, n'est-ce pas? Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répliquent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui qui nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même si il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as tressée. Wow! Mais, j'ai une question. La réponse révèle un doute sur la capacité de Dieu de les sauver. Que dites-vous de cela? 30 secondes! Parlez à vos voisins. Ok, que dites-vous de cela? Quelle réponse? Non. Ok, on continue. Mais pourquoi non? Qu'est-ce qu'on veut dire?
Oui. Que la capacité, c'est vraiment le fait que Dieu est capable, oui ou non, de les sauver. Et là, ce qu'ils disent, c'est pas ça, c'est Dieu va nous sauver, peut-être, mais peut-être pas. Ils ne parlent pas du fait qu'il soit capable de les sauver, mais ils ne savent pas s'il va décider de le faire.
Ouais. On est tous d'accord. Les capis.
Zapette.
Ah oui, c'est intéressant. Il ne présume pas sur Dieu, c'est ça? Il n'hésite pas non plus dans leur engagement envers lui. Et il me semble qu'on peut glisser, c'est juste une petite parenthèse, on peut glisser dans un des deux fossés avec la prière, c'est ça? D'un côté, on peut être présomptueux, on peut être exigeant de Dieu. Dieu, fais ça pour moi! Jésus n'a pas dit que demande quelque chose dans mon nom, mais c'est ça. Ok, Dieu, sauve-moi. Comme ça. Ou on peut être dans l'autre fossé où on ne demande pas à Dieu. On sait, oh, s'il peut, et après avoir dit, s'il peut nous sauver, s'il peut nous sauver, s'il peut nous sauver, peut-être il va, qui sait, et on ne prie pas. Je ne sais pas si tu es plutôt ce côté-là, exigeant, ou si tu es plutôt ce côté-là. Peut-être ça, c'est le danger pour nous. Ça dépend. Mais on voit, oui, un équilibre extraordinaire dans leurs mots, oui. N'est-ce pas? C'est incroyable. En fait, c'est un équilibre qu'on voit dans la prière de Jésus. Abba Père, tout est possible! Éloigne de moi cette coupe dans le jardin de Gethsémani. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ça, c'est Jésus. Jésus, le modèle. Mais les gars ici, le modèle. Il reste fidèle à Dieu. Malgré la pression, la peur, les conséquences, leur vie même, il reste fidèle à Dieu. Est-ce que vous avez noté, ils ne font pas une grosse affaire à ce sujet? Il y a une tranquillité surprenante là, n'est-ce pas? C'est, ils ne sont pas indignes ni en colère. En fait, ils n'ont pas dit, quand l'héros a dit arrive, ils ont dit non! Ils ont juste. Non, c'est pas notre truc. On est là. Et c'était le Babylonien qui fait sortir le problème. Ils étaient là. Mais devant le roi, il montre juste une tranquillité surprenante. Roi, c'est incroyable le mot, n'est-ce pas? Le mot roi. Qu'est-ce que le mot? Verset 7. Notre Dieu, celui qui nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Incroyable. Parce qu'il savait que le Dieu souverain sauve son peuple. Le Dieu souverain sauve son peuple. Malheureusement, on n'a pas le temps de lire tout le reste des versets, de versets 19 à 30. Je vais résumer ça. Nébu est enragé par leur réponse. Le fournaise est chauffé, les choix juifs sont jetés dans le feu, qui fait si chaud qu'il tue même les soldats qui les jettent. Étonnamment, ils ne sont pas blessés. Et il y a même un quatrième silhouette. Est-ce que tu as vu ça? Verset 24. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté toison, ligoté au milieu de feu ?» Il répondit au roi, « Certainement, roi !» Il reprit, j'aperçois quatre hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu de feu, porteurs d'aucune blessure, et le quatrième ressemble à un fils de Dieu. Ils sont Ils ne sont pas brûlés, n'ont même pas l'odeur de feu sur eux. Et Nébu loue leur Dieu et publie une proclamation protégeant le nom de leur Dieu. En fait, Nébu répond à sa propre question de verset 15. Quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Verset 29. À la fin de 29, il dit, en effet, il n'y a aucun autre Dieu capable de délivrer comme lui. Le Dieu souverain sauve son peuple. C'est l'image de Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu qui sauve Abraham et sa famille, qui sauve Israël, qui sauve la famille de Jacob, qui sauve les Israélites d'Égypte. Dieu sauve son peuple de ses ennemis. Il est le Dieu qui sauve. Et il sauve par Jésus. Même quand Dieu ne sauve pas physiquement, on peut lui faire confiance. Parce que Jésus sauve son peuple de ses grands ennemis, du péché et de la mort. Dieu nous sauve. Et oui, je pense que Jésus était là avec eux, dans le feu. Il est toujours avec nous. Comme dit Matthieu 28, il sera toujours avec nous. Il nous promet qu'il sera toujours avec nous dans nos persécutions. Quelles sont les idoles de notre société? Moi, j'ai déjà parlé de nos publicités, mais il y a les idoles de notre société. Peut-être c'est la famille. Une jeune fille asiatique qui a étudié en Australie est devenue chrétienne, puis est retournée de son pays pour voir sa famille pendant les vacances. Sa famille l'a emmenée au temple. Elle lui a demandé d'allumer une bougie d'encens à ses ancêtres, comme toute la famille le fait. Elle ne voulait pas le faire. Cela aurait été si facile, juste, ok, une petite bougie. Mais elle n'a pas voulu offenser à sa famille, mais elle a respectueusement répondu, non, je ne veux pas faire ça. C'était difficile pour elle. On a eu une famille qui est restée avec nous pendant les vacances avec une fille de 15 ans. Et ils habitent en Espagne et il y a une fête chaque an pour les jeunes de 15 ans. Et dans la fête, tous les saints, ils boivent beaucoup. Ils font n'importe quoi pendant la fête. Elle ne voulait pas faire ça, même si elle a été invitée par ses amis vraiment cool au lycée. Elle ne voulait pas faire ça. Elle a dit non merci. Cela a beaucoup offensé à ses amis. Et ils ont parlé d'elle à tout le monde à l'école. Elle a perdu quelques amis. Et c'est vraiment difficile pour elle. Ça, c'est la persécution. Et c'est pas facile pour elle. Il faut prier pour les gens comme ça. Mais il faut prier pour nous aussi. Parce que ça ne va pas être facile pour nous. Et ça va être difficile. Mais, malgré la persécution, Dieu sauve son peuple fidèle. Est-ce qu'on peut prier? Et après, on va avoir juste quelques questions. Seigneur, les situations comme ça sont un peu loin de nous, Seigneur. On est ici. Notre contexte ne pourrait pas être plus différent. Il y a les montagnes, le calme, le bon repas. On est entouré des chrétiens. Mais Seigneur, tu nous as dit dans ta parole que la persécution va arriver. Seigneur, aide-nous à rester fidèles à toi dans la persécution. Même dans la persécution, même dans les petites persécutions, même dans les humiliations peut-être qu'on va souffrir. Seigneur, aide-nous à rester fidèles. Et même si on échoue, Seigneur, merci parce que Jésus a resté fidèle à toi, Seigneur. Et on peut revenir à toi, Seigneur. Merci pour Jésus. Amen. Ok, quelques questions? On n'a que quelques minutes, donc. Quelques questions? Oui?
Pourquoi est-ce que tu dis que c'est Jésus qui est dans la fournaise de Dieu?
Parce que j'ai les petites notes. Les notes en bas. C'est Jésus. Oui, c'est une bonne question. Et en fait, j'ai dit, je pense. C'était quelquefois dans l'Ancien Testament, il y a une figure humaine. Et on pense que peut-être, en fait, c'était comme un ombre, un avant-goût. Avant-goût de Jésus, en fait. C'est parce que dans l'Ancien Testament, c'est Dieu. Mais c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu aussi. Et de temps en temps, il y a une figure humaine. Et c'est juste. Et quelquefois, Dieu parle aux gens. Et je arrive dans une figure humaine. Et il parle aux gens. Et c'est un peu. Mais est-ce que Dieu est là? Est-ce que Dieu est là? Est-ce que l'Esprit de Dieu est là? Et tout devient clair, dans le Nouveau Testament, un peu avec la Trinité. Si la Trinité est claire, en tant que doctrine. Mais on voit plus clairement ça. Et donc. On appelle les apparences comme ça, un théophanie. Et donc, je dis je pense, mais peut-être je crois que c'est ça. On peut parler un peu plus que ça. Et il y a des autres questions. Merci, Joshua. Oui.
On parle de Daniel
jusque-là.
Et dans ce passage-là, on n'en parle pas vraiment. Et je me pose la question, du coup. C'est un sens
particulier. Oui. Est-ce qu'il était sous son lit ou... C'est là. Oui. Je ne sais pas. En Daniel, chapitre 6, c'est Daniel qui est là. Peut-être, je peux te donner quelques théories, mais je ne sais pas. Peut-être il était assez loin, peut-être il était, tous les officiers étaient là et il était quelque part entre.
En fait, on lui a donné l'autorité sur une province, donc sans doute il n'était pas à la capitale. Si vous regardez le chapitre d'avant, lui il se retrouve autorité de gouverneur, donc sans doute gouverneur ailleurs. Et ses potes sont restés à la cour. La question c'est, moi je me suis toujours demandé, est-ce qu'il a été au courant, même s'il est loin, il y a des kilomètres, peut-être même des milliers de kilomètres, on ne dit pas dans quelle province il a été mis gouverneur, mais aussi bien il a été mis gouverneur dans une province à l'autre bout de l'Empire, en fait, je ne sais pas.
Ouais. C'est possible.
Peut-être qu'il était au courant.
Sans
doute qu'il n'était pas au courant, en fait.
Ouais, c'est ça. Par chapitre 6, il est vraiment au centre, au chapitre 4 même. Ouais. Mais qui sait, il y a les exemples. La dernière question. Ça, c'est une bonne question. On va creuser cette question un peu plus loin. Est-ce qu'on peut laisser. Est-ce que je peux parler de ça un peu plus tard? Mais merci, c'est une bonne question, Louise. Et je vais juste finir avec une autre histoire de Marie Durand. Est-ce que quelqu'un a entendu? Oui, Marie Durand. Durand?
Il y a la tour.
La tour, oui, oui. C'était la tour de Constance? C'était là. En 1730, Marie Durand, une fille de 15 ans, a été arrêtée et incarcérée dans la tour de Constance, au sud de la France. Elle a eu un frère qui était pasteur protestant et ils ont eu une Bible en français. Et donc, à l'époque, les protestants étaient persécutés par le gouvernement qui était catholique et elle a été incarcérée dans la tour pendant 38 ans. Elle n'a jamais nié Jésus. Elle n'a jamais... Elle n'a jamais rejeté ni Jésus, ni les protestants, ni la Bible. Elle était la leader spirituelle des autres prisonniers. Elle a écrit des lettres au gouvernement. Elle a pris soin des malades dans la tour. Elle a lu des psaumes et fait la présidence de la louange parmi les prisonniers. Ça, c'est un héros. Un héros de la foi. Est-ce qu'on peut être là? En fait, il y a une citation de Garibaldi. Il n'est pas chrétien. Mais il a dit qu'il pouvait trouver les hommes qui étaient prêts à sacrifier leur vie pour sa cause. Mais c'était difficile de trouver quelqu'un qui voulaient verser la première goutte de leur sang. Les premières gouttes, ça c'est difficile. Oui, ma vie, oui. Mais la difficulté, je ne suis pas sûr. Peut-être ça c'est un peu comme nous. Oui, si c'était une question de la mort, ok, je suis prêt à mourir pour Jésus. Mais est-ce que je suis prêt à être humilié pour Jésus? Il faut prier.